Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes ont été retenus pour vous, à savoir Sénir et misère et prison pour le bureau Ngoy Moulunda et le bureau Malou Malou. Dans notre deuxième et dernier thème, on parlera de la situation sécuritaire dans la province du Katanga. Les autorités de cette province appellent au calme face à la psychose dans la ville sur une éventuelle attaque des Bakata Katanga. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Luc Mikomo Kabongatre, directeur de l'info à Congo Web Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Il est aussi éditeur du journal Nouveau Regard. Bonsoir Luc.
Bonsoir.
Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joël.
Bonsoir consoeur, bonsoir auditeur.
Et Dola Moussema, directeur de la radio communautaire Iriba FM, émettant depuis Bukavu au sud Kivu. Il est aussi secrétaire provincial de l'UNPC. Bonsoir Dona.
Bonsoir qui vous écoutez, bonsoir confrères dans le studio.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM, mais pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Alain Hong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la cérémonie de remise et reprise à la CENI. Ngoy Moulunda passe le flambeau à Malou Malou, indique la tempête des tropiques. Entre-temps, l'assemblée plénière de la centrale électorale congolaise, dont la séance inaugurale a été lancée hier jeudi 27 juin 2013, s'attelle déjà à fixer les grandes lignes de l'action de cette institution, note la consoeur. L'avenir pour sa part-titre, Malou Malou révèle les grandes lignes de son action. Le quotidien met l'accent sur la nécessité de l'accompagnement des Congolais. Pour Forum des As, après la remise et reprise entre le bureau entrant et sortant de la CENI, Malou Malou mise sur l'impartialité, l'indépendance et la transparence. En rapport avec l'appel au calme lancé à la population de Lubumbashi par le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, devant l'Assemblée provinciale, suite aux menaces d'attaque de la ville de Lubumbashi le 30 juin par le groupe rebelle Bakata Katanga, la prospérité lance 30 juin 2013, Bakata Katanga menace, Katumbi appelle au calme. De son côté, le potentiel note menace de Bakata Katanga sur le Lubumbashi, Moïse Katumbi appelle la population au calme. Invité par les députés provinciaux à s'expliquer sur le regain de l'insécurité dans la province du Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi a lancé un appel au calme à la population. Le phare poursuit, apocalypse du 30 juin, Moïse Katumbi n'y croit pas du tout. C'est un cri de cœur que Moïse Katumbi a lancé mercredi 26 juin aux populations de la province du Katanga par l'entremise des députés provinciaux pour leur demander de garder leur calme et de vaquer à leurs occupations le 30 juin prochain. Parmi les autres sujets d'actualité, l'avenir reprend l'ordonnance rendue publique jeudi à la télévision nationale concernant les concertations nationales. La tempête tropique rappelle que plusieurs fois annoncée, la tenue des concertations nationales est enfin officialisée. La fin de la session de l'examen d'État 2013 est intervenu hier jeudi et à ce sujet, le potentiel annonce que la publication des résultats aura lieu dans un bref délai. Il y a d'autres sujets que nous pouvons juste citer, c'est notamment la visite du nouveau greffier de la CPI en RDC, le débat suscité par la publication de l'ouvrage du professeur Évariste Beauchab sur la révision constitutionnelle, le lancement à Kinshasa des travaux de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Ngili et le tour cycliste international de la RDC qui a bouclé sa boucle hier jeudi par la victoire d'étape du Congolais Lukwabumba.
Merci Alain pour cette revue de presse, Joël Kadedanga. Un mot sur ce sujet qui fait polémique par rapport à la publication de l'ouvrage d'Evariste Boshab sur une probable révision de la Constitution.
Bon, je crois que c'est un débat lancé par un scientifique en sa qualité de professeur d'université, de constitutionnaliste. Je pense que il a trouvé mieux que c'était le moment de lancer un débat autour de la révision constitutionnelle, mais en même temps, le temps en sa qualité de secrétaire général du PPRD, en même temps l'ancien président de l'Assemblée nationale, auteur de la première révision de la Constitution, cela aurait été analysé dans l'opinion comme un ballon d'essai, de telle sorte qu'on voit la réaction de la population, et je crois que on tend sans le vouloir vers vraiment la révision de la Constitution pour permettre à Joseph Kabila encore de briguer un second, ou qu'est-ce que je dis, un troisième, peut-être éternel mandat.
Luc, comment certaines personnes voient une mainmise du régime en place?
Ben moi je ne sais pas si cela provient véritablement de Joseph lui-même, je m'interroge. Mais je sais une chose, qu'il y a peu on avait demandé à Joseph Kabila s'il voulait modifier la Constitution. Il a répondu, ne faites pas de moi un dictateur. Et moi, je m'en tiens à ces déclarations. Et quand j'observe Joseph Kabila, tel qu'il a conduit les affaires, j'ose croire véritablement qu'il est temps pour lui de sortir par la grande porte et de sortir la tête haute. Quoi que l'on dise, quelles que soient les faiblesses du régime, mais ce que Joseph Kabila a posé comme acte, ça peut suffire pour qu'il puisse sortir. Maintenant, il a à peine une quarantaine d'années, prendre du recul et revenir. Je voudrais ajouter tout de suite qu'on a reproché au régime mobutiste qu'il y a eu des intelligences qui étaient mises au service du mal. Je me demande si aujourd'hui on ne tiendrait pas le même discours. Mais je crois, moi, qu'il y a des mécanismes prévus par la Constitution pour sa révision, ça existe, mais il faudrait que les gens se posent la question de savoir est-ce qu'il y a une opportunité maintenant de toucher à la Constitution. C'est quoi l'opportunité? Ça ne peut pas en tout cas laisser indifférent l'opinion qui pense qu'il y a du feu qu'on jette aux poudres.
Dona Moussema, vous intervenez depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Vous êtes directeur de la radio communautaire Iriba FM. Vous êtes aussi secrétaire provincial de l'UNPC. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Merci beaucoup. Depuis la semaine dernière, j'étais en train de déplorer le fait qu'il y avait une insécurité grandissante dans la ville de Bukavu et ses environs. Mais au stade actuel, les choses semblent vraiment se stabiliser un tout petit peu. Mais pour beaucoup de personnes, il s'agit d'une accalmie, peut-être de façade, parce que jusque-là, l'autorité en place n'a pas pris des mesures draconiennes, des mesures solides pour essayer un peu d'éradiquer cette insécurité-là. Alors, sur le plan politique, l'autre fois aussi encore, je parlais de la pression qui est toujours présente pour qu'il y ait élection du vice-gouverneur au Sud Kivu. Après 20 mois, les choses ne semblent toujours pas se décanter. Les organisations de la société civile fustigent au quotidien ce qu'ils qualifient de mauvaise foi et de manque de volonté politique de la part de la majorité présidentielle pour organiser justement cette élection du vice-gouverneur. La société civile du Sud Kivu va même plus loin en estimant que l'absence d'un vice-gouverneur au Sud Kivu est la cause profonde même de l'insécurité grandissante et généralisée dans beaucoup de quartiers de la ville de Bukavu, étant donné que seul le gouverneur, quelque compétent soit-il, devrait avoir un vice-gouverneur pour d'abord compléter le gouvernement provincial, mais aussi pour un certain équilibre dans la gestion, et ça serait, d'après beaucoup de personnes, respecter la Constitution en son article 198 et même la loi électorale en son article 160. Donc, globalement, c'est ça ce qui se passe à Bukavu, mais aussi il y a une crainte sur le plan de l'éducation parce que les examens d'État sont terminés, beaucoup d'élèves ont reçu les questions un peu avant les examens, c'était le phénomène mutilé. Alors, on est en train de remettre en cause la qualité de l'enseignement et le niveau des étudiants que nous allons lancer sur le marché. Donc, il y a problématique de ce côté-là.
Merci, Dona Monsema. Premier terme de ce soir, Daniel Ngoïmounounda cède le fauteuil de la direction de la CENI Apollinaire Malou Malou. C'était au terme d'une brève cérémonie de remise et reprise organisée hier jeudi soir au bureau de cette institution ici à Kinshasa. Le tout précédé d'une plénière au Salon Congo du Grand Hôtel. À l'occasion, le président de la CENI a indiqué qu'il mettra l'accent sur la restructuration de cette institution. Apollinaire Malumalu promet aussi d'élaborer rapidement un calendrier électoral pour fixer les séquences d'organisation des scrutins en fonction des exigences du cycle électoral. L'abbé Apollinaire Malumalu a aussi évoqué les valeurs fondatrices de l'acte de vote qu'il énumère dans ses propos recueillis par Jacques-Yves Molima.
L'impartialité et l'intégrité. Cette capacité d'agir d'une manière impartiale en évitant de favoriser des intérêts politiques, donc capacité de traiter toutes les parties prenantes sur le même pied d'égalité. L'indépendance. Cette capacité d'accomplir le travail sans être sous l'influence ou le contrôle d'une force extérieure telle que les institutions de la République, l'opposition, les groupes d'intérêt, la communauté internationale. Mais, à contrepartie, développer la transparence. Capacité de faire preuve d'ouverture et d'honnêteté dans toutes les relations, excepté dans les situations où l'ouverture peut compromettre le secret de vote et sa sécurité. L'efficacité, l'utilisation sage des voix affectées aux élections, l'attachement à la qualité du service, le professionnalisme, l'accessibilité.
Alors Luc Mikomo, je rappelle que vous êtes directeur de l'Info Congo Web Télévision, une télévision privée qui est émise depuis Kinshasa. Vous êtes aussi éditeur du journal Nouveau Regard. Lorsqu'on suit l'abbé Apollinaire Malumalu, le nouveau président de la CENI, parle d'impartialité et égalité dans la façon de travailler du nouveau bureau. On peut croire dans ses propos alors qu'on sait que beaucoup de gens se plaignent déjà de son impartialité même à la tête de la CENI.
Entendre l'abbé Apollinaire Malumalu, que personnellement j'apprécie beaucoup, c'est un intellectuel, prêtre catholique, et donc quelqu'un qui a maîtrisé la rhétorique, et c'est beau de l'entendre décliner tout ce qu'il considère comme des axes principaux de son action à la tête de la CENI. Et, soit dit en passant, on sait que c'est pas la première fois qu'il préside à la tête de cette institution d'organisation des élections. Impartialité, indépendance, transparence, professionnalisme, qui est des beaux mots. Et moi, je vais au-delà de ce que l'abbé Malumalu déclare. C'est bien beau, on lui accorde tout ça, mais on attend le voir agir, poser des actes concrets. Mais je porte ma réflexion sur son retour. L'abbé Malumalu avait géré la CENI après avoir passé
la CEI.
C'était la CEI à l'époque, ouais. Merci. Et après avoir organisé les élections de 2006, il a eu des éloges de partout dans le monde. Alors que sur le plan interne, surtout, son action n'était pas vue d'un bon œil. Il revient, après avoir passé, je crois, 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas, il revient et il tient ses discours. Mais pourquoi d'abord Malumalu doit-il revenir? Qui sait pourquoi Malumalu revient? Puisque hier on disait, la communauté internationale a déclaré que si Ngoï Mulunda est là, elle ne mettra pas la main dans la poche, donc elle bloquerait l'organisation des élections. Et avec Malumalu, cela va sans dire que la communauté internationale mettra la main dans la poche et va soutenir l'action des Malumalu. Pourquoi? C'est une question que je me pose. Alors, au même moment, il y a ce qu'on vient d'aborder tout à l'heure, le livre du professeur Bouchab qui est lancé et qui provoque un peu l'opinion tant intellectuelle que l'autre, proposant la révision de la Constitution. Malumalu rentre à la CENI.
Vous pensez qu'il y a quelque chose qui se prépare?
Je crois que celui qui ferait une analyse dans une approche systémique ne croirait en aucun cas qu'il s'agit de fait du hasard. Il s'agit d'une conjugaison des efforts pour aboutir à une finalité dont seuls eux détiennent le secret. Mais je voudrais terminer par là. Regardez Nelson Mandela. Regardez Lula au Brésil. Nelson Mandela n'a brigué qu'un seul mandat. Il a laissé les choses aujourd'hui, peut-être dirait-on précipitamment, paix à son âme. Le monde entier est en train de le louer. Lula au Brésil a laissé des traces positive. Et moi, je dis que, ici chez nous, Joseph Kabila aura laissé des traces positives s'il jouait bien sa partition, telle que lui-même l'avait dit, qu'il reste démocrate.
Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Un mot sur ces propos de l'abbé Apollinaire Malumalu.
En tout cas, quand j'étais en train de suivre ça, je me suis incliné un instant pour demander vraiment au Dieu Tout-Puissant d'aider son serviteur cette fois-ci, vraiment qu'il aide pour qu'il mette en pratique les beaux mots, en tout cas les vœux saints qu'il venait d'exprimer, qu'il soit impartial, qu'il soit professionnel, qu'il soit neutre, qu'il soit au-dessus des influences politiciennes, qu'elles viennent des institutions de la République, de l'opposition ou du monde de la communauté internationale. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour lui et j'espère que Dieu va exaucer ma prière. Mais du moins, si je devais placer un mot par rapport à cette remise de prix, c'est notamment le blocage, le chantage du pasteur Daniel Ngoï Mulunda qui y a fait la remise de prix était prévue à 10h et là
À 11h,
et là, elle a été ramenée à 14h, puis Sinédié.
Dans la soirée, finalement,
puis,
elle a eu.
Finalement, on a rappelé les gens. Donc, le pasteur Ngoï Mulunda laisse une image d'un homme de Dieu qui n'a pas bien vendu Jésus-Christ à la tête de cette institution, où même quand il fallait proclamer les résultats, il fallait toujours tirer les choses en longueur. Et aujourd'hui, c'est en sautant avec le chantage pour obtenir, il a fallu qu'on lui paye les indemnités de sortie pour accepter de venir.
Raison de réclamer ces indemnités de sortie.
C'est une formalité, c'est légal, c'est normal, mais nous connaissons dans notre pays que le gouvernement Mouzito est sorti sans indemnité de sortie et ils ont été payés après. Il ne faudrait pas que les gens se fassent payer les indemnités de sortie, comme je l'ai appris pour le gouvernement provincial du Katanga, qu'ils se seraient déjà fait payer les indemnités de sortie avant qu'ils n'aient fini le travail. Et on connaît, ce n'était qu'une simple formalité administrative pour permettre au bureau en train de commencer le travail. Est-ce que vous savez que le lancement de travaux avait déjà commencé au Grand Hôtel sans que Abbé Malumalu n'ait pris le bâton de commandement. Ça, c'est quelle image l'Église méthodiste laisse vraiment dans la gestion des affaires de l'État.
Est-ce qu'il faut voir l'Église méthodiste ou la personne du pasteur Ngoï Mulunda?
C'est ce que j'ai dit. Vous savez, la Bible dit ceci, nous sommes la lumière du monde. On ne peut pas placer la lampe en dessous de la table. Lui, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, est-ce que dois-je donner raison à son église d'origine qui l'avait démis de ses fonds, qui l'avait chassé? En tout cas, je peux le dire. Ou soit, dois-je donner raison ou dire que la prédilection de Étienne Tshisekedi wa Mulumba s'est accomplie lorsqu'il avait dit « Akolela na munoko ya mboka ». Est-ce que je puis dire que ça s'est accompli? En tout cas, ce sont des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais sinon, en ce qui concerne l'abbé Malumalu, vraiment, j'ai bien retenu son discours, je vais l'enregistrer et je lui rebalancerai ça à la prochaine proclamation des résultats dans la manière dont il va conduire les affaires de l'État. En tout cas, nous l'attendons vraiment de pied ferme, mais le pasteur Ngoï Mulunda a fait la honte de nous enfants de Dieu.
Donna Moussema, vous êtes directeur de la radio communautaire Iriba FM et mettons depuis Bukavu au sud Kivu et secrétaire provincial de l'UNPC. Dans ses propos, l'abbé Apollinaire Malumalu a indiqué qu'il mettra l'accent sur la restructuration de la CENI.
Merci d'abord pour la question. Je viens de suivre effectivement ce discours. C'est un bon discours. Nous sommes habitués à des discours dans ce pays. Et quand nous suivons tous les discours, on sent qu'il n'y a jamais eu de mauvais discours. Mais ce qui importe, je pense, c'est maintenant les actions et le suivi du discours. Quand il parle de la transparence, efficacité, indépendance et tout, ce sont des bons concepts. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour que ces concepts soient respectés et que les élections puissent prochainement bien se dérouler? Je pense que c'est ça justement la problématique. Vous m'avez posé la question sur la restructuration de la CENI pour l'instant. On venait de restructurer la CENI et nous avons déjà le membre de la CENI qui fait un nombre de 13. Est-ce qu'il faut encore une résolution? Je ne sais pas. Je n'ai pas bien suivi cette question-là.
Au niveau des programmes,
je ne sais pas si c'est ce niveau-là où vous êtes ou quoi.
Est-ce qu'il faut se limiter seulement à la restructuration au niveau du bureau ou il faut restructurer aussi dans les provinces?
Ah voilà, merci. Je pense qu'il faut qu'on fasse le métier qui est global même jusqu'au niveau des provinces. C'est pas seulement au niveau des provinces. Il faudrait que tous les acteurs impliqués dans l'organisation des élections puissent aussi se mettre à l'œuvre. Parce que nous avons vu, il y a des gens qui se tirent dessus, les partis politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les élections se passent bien dans le pays. La société civile, les organisations de la société civile, comment elles ont travaillé pour que les élections se passent bien. Je pense que c'est un travail de fait en comble que nous devons tous mener et réfléchir pour que les élections prochainement se passent bien ou mieux encore par rapport à l'élection que nous venons de connaître. Donc, globalement, je serais aussi d'avis qu'on change les acteurs au niveau des CENI, au niveau même des provinces. Je pense que ça porterait un souffle nouveau parce que nous savons aussi comment les CENI ont fonctionné au niveau des provinces. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, il y a eu beaucoup de fraudes, beaucoup de tricheries. Il faudrait, je pense, repenser aussi la constitution des CENI au niveau des provinces. C'est un point de vue.
Luc, mais comment vous vouliez réagir
à... Par rapport à l'option de la restructuration de la CENI, et M. Abbé Malomalou dit qu'il va restructurer la CENI. Cela veut dire, en d'autres termes, que le bureau Ngoïmoulou n'en a pas bien travaillé. Donc, il y a eu des gens qui n'étaient pas à leur place. Et qu'il va falloir changer des personnes, parce que le problème dans notre pays, ce n'est pas le problème des institutions, mais c'est plus le problème des personnes qui anime ces institutions. Et là-dessus, je ne voudrais pas que l'on tourne la page comme on a l'habitude de le faire. Il faudrait que tous ceux qui ont commis des actes contraires à leur mission doivent répondre devant la justice. Puisque aujourd'hui, on dit globalement le bilan de Ngoïmoulou a été néfaste, catastrophique. Et le frère dit qu'il est sorti par la petite porte faisant la honte des enfants de Dieu. Moi, je ne parle pas de religion. Mais lui s'est engagé comme un administrateur, un leader pour les élections. Ces élections ont laissé des taches noires pour la République. Faut-il que Ngoïmoulou s'en aille sans qu'on sache quel acte il a posé, quelles conséquences ces actes ont induit sur la vie de la nation, notamment dans le processus électoral.
Et là, vous voulez dire qu'il faut une enquête?
Il faut absolument
une enquête même de la CENI par le bureau.
Sur la gestion de la CENI, parce que nous apprenons qu'il lègue à Malomalou une lourde dette d'environ 120 millions de dollars. Qu'a-t-on fait avec ces 120 millions de dollars? Qui a contracté cette lourde dette que nous, les peuples, nous allons payer d'une manière ou d'une autre, que la République devra payer? Moi, je voudrais absolument que si nous allons vers la modernité, de quoi on dit encore la révolution de la modernité, il faudrait que nous soyons d'abord modernes dans les petites choses.
Joël Kadedanga.
En ce qui concerne la restructuration, cela va de soi, parce que vous savez, la loi portant organisation des élections dans notre pays a été relue au niveau de l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. Je crois qu'il en va de soi que cela soit contienne compte de la reconfiguration de la nouvelle loi dans les provinces et ainsi de suite. Mais je voudrais revenir sur ce que Luc venait tantôt de dire, qu'on ne peut pas laisser Ngoïmoulou aller comme ça parce qu'il a demandé qu'on lui donne les indemnités de sortie, c'est bien beau. Mais pour quel résultat? Parce que les élections organisées par lui, bien sûr que cela va de la responsabilité et des partis politiques et des autres membres de la Commission électorale nationale indépendante, mais cela aussi, il faut voir les résultats, parce que même le chef de l'État a reconnu les quelques irrégularités constatées. Et ces irrégularités, si on va les laisser comme ça, et l'argent dépensé, on va le laisser comme ça, et quelques personnes nommées, à peine qu'il était déjà annoncé qu'il devait quitter, il a nommé des hauts cadres au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Je crois qu'il y a lieu de revoir tout ça, et c'est pour cela que j'encourage l'abbé Apollinaire Malomalou de restructurer, tout en tenant compte non seulement de la configuration de la loi portant organisation des élections dans notre pays, mais aussi tenant compte de la représentativité de la société civile, l'opposition dans toutes les provinces.
Donna Moussema, l'abbé Apollinaire Malomalou a aussi d'élaborer rapidement un calendrier électoral pour fixer les séquences d'organisation des scrutins en fonction des exigences du cycle électoral. On sait que le cycle électoral de la RDC est très irrégulier. On fonctionne avec un Sénat et des assemblées provinciales de 2006. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'harmoniser ce cycle électoral?
Je pense qu'il est un peu difficile aujourd'hui, au stade actuel, d'harmoniser le cycle électoral. Parce que, comme nous venons de le dire, on sait que nous avons des sénateurs qui ont déjà dépassé leur mandat, ou les élections provinciales qui n'ont jamais eu lieu. Donc, ça pose tout un problème dans l'organisation. Mais ça serait important si ça pouvait techniquement être possible qu'on puisse arriver à cela. Je pense plutôt qu'il fallait lui poser la question, comment on compte aujourd'hui justifier le fait que les élections des sénateurs n'ont jamais eu lieu, les élections provinciales n'ont jamais eu lieu non plus, et les députés que nous avons vu, les députés provinciaux sont, pas légitimes, hein, pas légitimes parce que ils sont hors mandat, donc c'est ça un peu, je ne sais pas comment lui compte arriver à cela, mais ça serait une bonne chose si on arrivait à harmoniser le cycle électoral pour qu'on puisse avoir un chemin commun qui puisse se retrouver à tous les niveaux, au niveau des provinces, au niveau des sénateurs, au niveau des assemblées nationales, de l'Assemblée nationale, au niveau même des élections locales qu'on n'a jamais connues, comme c'était annoncé depuis l'élection de 2006. Ça me paraît donc concrètement, logiquement parlant, un peu difficile d'harmoniser le tout au stade actuel. Mais l'essentiel, c'est la volonté, et c'est cet esprit de faire la volonté qui vient de manifester. Nous allons l'attendre, nous allons le voir à l'autre, nous allons, je pense, critiquer ou juger après.
Luc Mikomo, il est impossible d'harmoniser ce cycle électoral aujourd'hui?
Je crois qu'il y a un adage qui dit le temps est comme l'oiseau, quand il s'envole, on ne le rattrape plus. Mais ce qui est faisable, c'est de tenter de sauver le meuble, comme on dit. Aujourd'hui, moi, je ne crois même pas qu'en 2016 ou en 2017, tout au plus, on aura des élections législatives puis présidentielles. Il suffit de poser la question à l'abbé Malomalo aujourd'hui. Croyez-vous, monsieur l'abbé, que vous allez réussir à organiser les élections présidentielles en 2016? Je crois qu'il aura beaucoup de mal à vous répondre avec précision. Mais ce qui est faisable, parce que nous ne devons pas non plus être esclaves de principes. Je dis toujours, il faut avoir les principes de la vie, mais il ne faut pas mener une vie des principes. L'abbé Malumalu peut tenter de sauver ce qu'il peut en organisant d'abord des échéances qui n'ont pas pu être organisées. Qu'il y ait des gens qui ont la légitimité populaire, qui puissent briguer des postes où cette légitimité leur donne droit. Aujourd'hui, comme dit notre ami de Bukavu, Dona, il y a beaucoup d'animateurs des institutions qui sont là de manière illégale et donc illégitime.
Joël Kadedanga, c'est possible d'harmoniser le cycle électoral en RDC?
En effet, c'est difficile pour l'instant. Parce que
c'est difficile, mais ce n'est pas impossible.
C'est difficile, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible dans la mesure où il y a juste un problème de volonté. Mais vous savez, la législature actuelle, nous sommes déjà près de 3 ans, et tandis que les sénateurs sont déjà au-delà, ils sont des déçus, les gouverneurs de province, et réussir le coup comme cela a été en 2006 par l'abbé Malumalu, où au premier tour de l'élection présidentielle, il y a eu, c'était les élections couplées législatives nationales et les présidentielles, au second tour, les législatives provinciales et, n'est-ce pas, le second tour de la présidentielle. C'est difficile de réussir ce coup-là, mais il suffit tout simplement que l'on puisse... Bah, parce que si il y a une élection même vers la fin de l'année, il faudrait attendre 5 ans pour que le mandat de députés provinciaux et celui des sénateurs et gouverneur de province puissent atteindre aussi la fin. Donc le chef de l'État qui pourra être élu en 2016 sera obligé de travailler avec des députés provinciaux et avec des sénateurs d'une autre législature. Donc c'est vraiment difficile, il faudrait beaucoup de calculs pour réussir cela.
Merci Joël Kadedanga. Deuxième et dernier thème de ce soir, situation sécuritaire au Katanga. Des coups de feu sont régulièrement entendus ces derniers temps pendant la nuit dans différents coins de la ville de Lubumbashi, ce qui crée une psychose dans la population. Cela s'accompagne des rumeurs qui circulent sur la ville sur une éventuelle attaque des miliciens Bakata Katanga. De leur côté, les autorités politico-militaires du Katanga multiplient les appels local, mais rassure la population. Paula Munanga pour les détails.
Hier jeudi, le commandant de la 6e région militaire a rencontré la jeunesse estudiantine en présence des autorités de l'université de Lubumbashi. C'était au cours d'une conférence débat qui s'est tenue à l'école de criminologie. Cette rencontre a tourné autour de la menace qui pèse sur la ville de Lubumbashi avec les miliciens Bakatakatanga. Le général Mboya Mansiona a qualifié de non conventionnel la guerre pratiquée par les Bakatakatanga. Il a aussi évoqué les caractéristiques et les conséquences d'une guerre. Il a invité les étudiants à ne pas se fier aux tracts, rumeurs et intoxications qui souvent alimentent une psychose au sein de la population. Le commandant de la 6e région militaire appelle les étudiants à la vigilance. Signalons par ailleurs qu'au cours du conseil provincial des ministres d'hier jeudi, le gouvernement provincial a confirmé que des mesures sont déjà prises pour assurer la sécurité de la population. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Signalons que le gouverneur des provinces s'est adressé mercredi dernier à la population à travers l'Assemblée provinciale. Moïse Katumbi a donné la genèse de la résurgence et la sécurité, assure ses administrés que des efforts sont conjugués pour y mettre fin. Luc Nikomo Kabonga, directeur de l'info à Congo Web Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Vous êtes aussi éditeur du journal Nouveau Regard. Quelle lecture faites-vous des événements de l'insécurité qui s'écoulent la province du Katanga depuis un certain temps?
La fois dernière, quand j'intervenais ici, j'ai interpeller, si vous voulez, le gouvernement de ne pas user de la politique de deux poids deux mesures. Nous avons vu dans l'Équateur les ennemis qui ont été brimés, réprimés. Dans le Bas-Congo, les Bundudia Congo, réprimés dans le sang. Et les M23 devint une force avec laquelle il faut dialoguer. Ça risque d'être la même chose avec les Bakatakatanga. Je disais la fois dernière qu'il faut écouter ceux qui sont écoutables. Mais je trouve encore au-delà un danger dans ce phénomène des Bakatakatanga, le retour vers les années 60 jusqu'à 65. C'est des groupes, des milices comme ça qui risquent de mettre le pays dans une instabilité telle que tout le calendrier qu'on veut mettre sur pied devient impossible à réaliser. Le chef de l'État vient de réitérer son appel à la tenue des concertations. Je me demande dans quel contexte peut-on tenir ces concertations tant que dans les Katanga, qui est du reste sa province, il n'y a pas stabilité. Est-ce que va-t-on encore organiser un dialogue avec les Bakatakatanga ou est-ce que on va user de la force pour réduire les Bakatakatanga? Je veux bien ce que Moïse Katumbi est en train de lancer comme appel au calme, ainsi de suite. Mais je me demande, qu'est-ce que le gouvernorat de la province du Katanga fait concrètement pour brimer ces gens? En mars dernier, ces troupes, ces miliciens sont partis d'une localité située à une vingtaine de kilomètres. Ils traversent villages, cités, ainsi de suite. Ils entrent dans la ville de Lubumbashi, traversent la ville de Lubumbashi, Joël pourra nous en dire un peu plus, jusqu'à aller hisser leur étendard en plein cœur de la ville de Lubumbashi. Où étaient les forces armées? Où était la police?
Après cet événement, on sait qu'il y a certaines autorités militaires des services de sécurité qui ont été suspendues.
Oui.
On a cru que la situation allait s'améliorer, mais malheureusement, les Bakatakatanga n'ont pas été maîtrisés.
Oui, mais c'est ça justement la question que nous nous posons. On va tenir les concertations nationales pour quelle finalité tant qu'un membre du pays se trouve dans l'insécurité? Pour moi, il aurait fallu que l'on commençât par stabiliser les Katanga, qui n'est pas une moindre province pour la vie nationale congolaise, puis étudier enfin comment organiser les concertations nationales.
Joël Kadidanga, éditeur du journal Impact, nous un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Comment on peut expliquer cette résistance des Bakatakatanga? Alors qu'on croyait que c'était maîtrisé.
Non, la résistance de Bakatagatanga résulte du seul fait que, qu'il s'agit du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, il y a une opacité entretenue. Entretenue parce que nous sommes restés sur notre soif de connaître le rapport de la mission parlementaire et de la mission gouvernementale qui ont été dépêchés à la suite des événements du 23 mars dernier. Jusque-là, il n'y a pas eu de rapport. Ça, c'est de un. De deux, il y a un refus. Soit un refus délibéré.
Mais on sait que la commission a déjà déposé son rapport au bureau.
Oui, le rapport a été déposé au bureau. Pourquoi ne pas le débattre au lieu de précipiter la validation des mandats des absentéistes? Parce qu'il y avait des urgences. Ça, c'est une urgence. On devait discuter de ça parce que c'est ça l'urgence. Les gens sont en train de mourir. Des deux, le gouvernement est en train de refuser d'aborder cette question en face. On ne veut pas connaître les réelles causes de la fronde au Katanga. Très chers consoeurs, vous savez que la fronde au Katanga résulte de la manière dont les Maïmaï du Nord Katanga ont été rétribués. Comparativement aux Maïmaï de l'Ituri du Nord du Sud Kivu, qui ont été élevés au rang de généraux, de cela, c'était le système. Mais en ce qui concerne les Maïmaï ou les miliciens Maïmaï du Nord Katanga qui avaient stoppé l'agression au Gando-Burundi au Rwandaise, eux, il a suffi que Mugabe se présente Chinja Gédéon et eux ont n'ont connu que la direction de la prison. Il faut qu'on réfléchisse pour donner une solution définitive que de vouloir y aller avec légèreté et complaisance. Vous avez vu le pasteur Ngoï Mulunda dont nous venions tantôt de parler. Il est allé cueillir les Chinja, les Maccabé en brousse, leur miroitant qu'ils vont réintégrer l'armée, qu'ils vont réintégrer la société civile, mais ils ont connu la direction de prison. Je crois qu'il y a lieu de bien corriger cette situation si l'on veut la paix au Katanga. Ça, c'est de un. De deux, il y a une mauvaise interprétation du découpage de la République démocratique du Congo qui est entendue comme une menace à l'identité katangaise. Un Katangais, quelles que soient les diversités des tribus détenues au Katanga, veut d'abord se sentir Katangais. Vous savez, mais aujourd'hui, quand on parle du découpage, on va parler de Olomami, Tanganyika, Okatanga, Lualaba, on sent comme si cette identité katangaise est menacée. Et en conséquence, il faudrait chercher, n'est-ce pas, un découpage qui les maintient, une sécession qui maintiendrait cette identité katangaise. Et même dans cette identité katangaise-là, lorsque vous allez à Kolwezi, les Sanga, les Luanzo,
mais la constitution prévoit le découpage territorial. Mais pourquoi au Katanga, ils peuvent s'opposer à ce découpage?
Ils ne s'opposent pas. C'est la manière dont le message, le discours du découpage est présenté par les leaders politiques. Ils le présentent comme si les majorités, la tribu majorité, les Baloubakati, devraient eux rentrer chez eux à Kamina, devraient eux rentrer à Malimankoulou, alors que pour la plupart, ils auraient investi à Lubumbashi.
Mais ça peut être aussi une interprétation de ceux qui sont au Katanga, qui interprètent le message du gouvernement comme ça.
C'est à ce niveau que les choses doivent être bien cernées pour voir quel est le message que la plupart de leaders politiques, qu'ils soient des Lamba, Balamba, Balouba, sont en train de véhiculer, n'est-ce pas, dans la population. Et si, et dans le cadre notamment, n'est-ce pas, des concertations nationales, je crois qu'il faudrait que les rapports recueillis par la commission gouvernementale ou la commission parlementaire puissent être établis, parce que dans tous ces rapports, toutes ces doléances ici ont été établies. Notamment, même les solutions sont déjà proposées ou pour peut-être corriger toutes ces velléités, il faudrait peut-être envisager que le grande ville Likasi, Lubumbashi, Kolwezi soit érigée en ville-province qui n'appartiendrait à aucune tribu de telle sorte que l'on puisse mettre fin à toutes ces velléités
sécessionnistes. Merci Joël Kadedanga. Je vais vous donner la parole, Luc Nkomo. Jonah Moussema, quelle lecture faites-vous de cette situation d'insécurité dans la province du Katanga?
C'est très déplorable. Je sais que depuis longtemps, on parle de l'insécurité, plus précisément à l'est du pays. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a le sud qui joue qui est en insécurité avec beaucoup de troupes armées. Il y a le nord qui joue. Vous connaissez l'histoire avec les N23. Encore aujourd'hui, c'est les Katanga, c'est ça là avec les Bakata Katanga. Donc, je pense que c'est une situation qui devrait plutôt faire réfléchir le gouvernement et que le gouvernement doit jouer son rôle régalien, c'est-à-dire apporter la sécurité pour tous les citoyens congolais. Donc, c'est aussi une façon de montrer que depuis longtemps, on parlait déjà de la sécession du Katanga depuis les années 1960. Et aujourd'hui, je pense que ce plan de balkanisation, ce plan de découpage à un niveau il est en train de se matérialiser, mais avec beaucoup de tâtonnements, et ça devrait plutôt faire réfléchir les dirigeants, ceux-là qui ont le pouvoir pour ramener la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc c'est pas un problème qu'il faudrait isoler, je pense qu'il faudrait l'insérer dans cette dynamique globale d'une sécurité à travers le pays qui bénéficie malheureusement d'un appui au niveau interne, au niveau externe et peut-être au niveau beaucoup plus élevé. Donc il faut réfléchir, là c'est le rôle du gouvernement. Nous attendons de lui un gouvernement responsable, un gouvernement capable de dissuader, de chasser toutes ces milices qui se mettent à désolation à travers le pays. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire.
Merci Donald Moussema. Il nous reste moins de 3 minutes pour mettre en place cette émission. Luc, mais comment vous avez la parole, soyez bref.
En deux mots, je voudrais inviter mon confrère Joël de ne pas ouvrir la boîte au Pandore. Cette question des incompatibilités dans des nouvelles entités territoriales décentralisé, c'est une question que vous retrouverez dans la quasi-totalité de toutes les provinces. Donc il ne faudrait pas singulariser cette situation, dire dans le Katanga, on crée des villes provinces. Non. C'est une question qui doit être résolue par le gouvernement globalement, de façon à maintenir d'abord l'unité nationale et à calmer toutes les velléités sécessionnistes. Parce qu'aujourd'hui, les données ne sont plus comme celles de 1960. On découvre les richesses partout. Donc il ne faudrait pas que, à cause de la puissance des minéraux, une province puisse constituer, l'occasion, j'allais dire, de chute pour toute la nation. Il faudrait que la question soit résolue globalement sans tenir compte du fait que ici il faut mettre des gants, là-bas non. Moi je pense pas que le gouvernement puisse procéder de cette manière.
Merci Luc, Nicomo, Joël.
Juste un mot pour dire, ce que je propose, ce sont des solutions durables qui peuvent être des questions, des causes qui peuvent être débattues dans le cadre de concertations nationales lancées par le chef de l'État pour aboutir à la cohésion, à l'unité nationale. Et pour y arriver, il faudrait apprendre à écouter toutes les franges de la population congolaise. Et si on refuse d'écouter ces jeunes gens, et on croira qu'on va les mater, qu'on va les chasser, mais demain, après-demain, ça va ressurgir. Mais pour ne pas que ça ressurgisse, qu'on les écoute, qu'on attende les doléances et qu'elles soient coulées dans le cadre des concertations nationales lancées par le chef de l'État.
Merci Joël Kadedanga, merci Luc Mikomo, merci Donald Moussema d'avoir répondu à notre invitation. Merci Alain Roux qui était à la réalisation, la mise en onde est assurée par Jean-Claude Sala. Au micro, Kéline Couté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonsoir chez vous et bon début de week-end.